Bien. La dernière fois, je vous avais mené au grand galop, si j'ose dire. On m'a demandé de parler peut-être plus lentement. Au grand galop, je vous avais mené ce qu'on appelle la déclaration de principe, qui est le fondement jusqu'à aujourd'hui des relations israélo-palestiniennes. Alors, je commencerai, après la lecture et l'analyse de la déclaration de principe, je passerai donc maintenant à l'interprétation de ce document essentiel. Pour ceux qui peuvent s'en rappeler, je crois que vous êtes nombreux dans cette salle, la nouvelle a été reçue avec un immense retentissement. On a célébré les acteurs comme des héros de la paix. Il y a eu vraiment à ce moment-là, à l'annonce de l'accord d'Oslo, une immense espérance, pas seulement chez les intéressés, mais dans l'ensemble du monde, dans ce qu'on appelle, au sens large du terme, la communauté internationale. Alors, comme toujours en histoire, il faut analyser l'événement à la fois par les causes immédiates et par les causes lointaines. Alors, du côté palestinien, il y a la compréhension depuis longtemps par Arafat que si la lutte armée est un incontestable facteur de restauration de la dignité palestinienne et de la cohésion du peuple palestinien et de son expression politique, cette lutte armée ne permettra jamais, du fait des rapports de force sur le terrain, la libération de la Palestine et l'élimination de l'entité sioniste. C'est là la spécificité du cas palestinien qui ne se retrouve pas dans la même situation que les autres grands mouvements de libération nationale des pays du tiers-monde. Dès lors, Arafat a maintenu la possibilité d'une solution politique sous forme de compromis, acceptant le prix à payer, qui est le renoncement à la violence politique définie par les autres comme étant le terrorisme. Dans sa plus grande dimension, la première intifada peut être considérée comme un mouvement de désobéissance civile du fait du non-recours aux armes à feu. L'isolement politique de l'OLP à la suite de la Seconde Guerre du Golfe, celle de 1990-91, puisque moi je compte trois guerres du Golfe et pas deux, la première étant la guerre Irak-Iran et la troisième étant celle de 2003, alors que les auteurs américains ne comptent que deux guerres du Golfe et pas trois. Mais ça, c'est le problème avec les Américains qui font parfois commencer la Seconde Guerre mondiale au 7 décembre 1941. La première intifada et la guerre du Golfe et surtout la crise financière qui a remis en cause l'existence même de l'OLP au moment où le Hamas surgissait comme un compétiteur crédible, au moins dans les territoires occupés. Le Hamas récupérant le radicalisme initial de la lutte palestinienne. Arafat avait su détourner la menace politique qu'aurait constituée la délégation palestinienne dans le processus de Madrid. Elle avait été recrutée dans la mouvance de l'OLP et du Fatah et s'est toujours proclamée comme mandatée par Tunis. De toute façon, du fait même de la politique de répression menée par Israël, il ne pouvait exister de forces indépendantes dans les territoires occupés. Financièrement, logistiquement et politiquement, la délégation ne pouvait être qu'une émanation de l'OLP. Tout au plus, elle pouvait montrer une sensibilité plus forte aux conditions de l'occupation, peu perçue par la direction de Tunis, d'où sa défense acharnée des principes et son contournement par la filière norvégienne. Haïdar Abdelchafi ne dissimulera pas son désappointement par rapport à la déclaration de principe. Il en montre tous les défauts du point de vue palestinien. Le refus d'admettre qu'il s'agit de territoire occupé, avec les conséquences juridiques que cela implique, la possibilité de continuer l'expansion des colonies, le droit de veto donné à Israël sur le retour des déplacés de 1967, sans parler des réfugiés de 1948, et etc., etc. Haïdar Abdelchafi se déclarera convaincu que l'on serait inévitablement arrivé à un accord à Washington, beaucoup plus clair et moins défavorable aux Palestiniens. Mais la dynamique propre de la filière norvégienne a été de se passer du rôle des États-Unis. Pour Tunis, l'impasse continue à Washington avait montré que l'on ne pouvait pas compter sur les États-Unis pour pouvoir arriver à un règlement satisfaisant pour les Palestiniens. Pour reprendre l'expression de Sadat, la question était de savoir si les Américains avaient 99% des cartes en main et donc la capacité de faire céder les Israéliens. Le processus de Madrid avait montré que ce n'était pas le cas. Ne pouvant rien obtenir de concret de la part des Américains, la délégation palestinienne n'avait aucun moyen, même si elle l'avait voulu, de se détacher de la tutelle de l'OLP. Oslo représente ainsi, pour Arafat, la seule façon de sauver son rôle politique et d'assurer la survie de l'OLP au bord de l'effondrement financier. Il récolte aussi les fruits d'un quart de siècle d'action diplomatique qui lui assure la reconnaissance internationale dont tous ses compétiteurs palestiniens sont privés. Ça a toujours été la grande carte d'Arafat qui a été de jouer systématiquement la carte de la politique internationale, de multiplier les voyages, les contacts. Et à l'époque où la gauche palestinienne était puissante, elle n'arrivait absolument pas à contrer Arafat dans ce domaine. Le meilleur que ce que pouvait espérer un Georges Habache, c'était un voyage en Corée du Nord. De ce point de vue-là, Arafat avait fait un immense capital politique par sa diplomatie, même si beaucoup de gens chez les Palestiniens lui reprochaient son tourisme. D'ailleurs, une plaisanterie palestinienne avait été quand Arafat avait déclaré en anglais qu'il renonçait à toute forme de terrorisme. Ils avaient compris qu'ils renonçaient à toute forme de tourisme. Mais de ce point de vue-là, en fait, ça avait une réelle logique politique. En même temps, par ses contacts internationaux, Arafat doit prendre acte de tout ce qui a été cédé durant cette période. Les paramètres de Camp David, l'acceptation des résolutions 242 et 338, le processus de Madrid-Washington, où les Palestiniens ne sont pas acceptés comme une partie autonome. Il lui faut dès lors assurer le passage de l'extérieur à l'intérieur de la Palestine et faire face à l'obstruction du Hamas. Les négociateurs palestiniens paraissent plus optimistes, au moins dans leurs déclarations publiques. Hassan Rasfour, l'un des participants aux réunions d'Oslo, justifie l'accord comme étant basé sur le principe « ni vainqueur ni vaincu ». Israël reconnaît le peuple palestinien et son représentant, l'OLP, et reçoit en échange la possibilité de s'intégrer dans la région. Les Palestiniens y gagnent le droit à l'autodétermination et à la constitution d'un État. Israël s'est engagé à geler les activités de colonisation, les implantations demeureront de façon temporaire jusqu'à leur évacuation après l'accord final. Ça, c'est la vision optimiste du côté palestinien de la déclaration de principe. C'est à noter que c'est à peu près le raisonnement que reprendra une dizaine d'années plus tard la Cour internationale de justice dans son célèbre avis sur le mur. Elle dira que la déclaration de principe implique la reconnaissance du peuple palestinien et de son droit à l'autodétermination. Et la Cour internationale de justice dira d'ailleurs que le droit à l'autodétermination des Palestiniens est opposable à toute autre forme de prétention. Adversus omnes ou contra omnes, je ne me rappelle plus la formule latine utilisée par la Cour internationale de justice. Donc ça, c'est un peu l'interprétation maximaliste de la déclaration de principe. Pour Rabin, c'est le réalisme qui l'emporte. L'ancien combattant de la guerre de 1948 trouve que le peuple palestinien est fatigué. Il n'a plus la force d'âme des premières années de l'État, comme le montre l'exode d'une partie de la population de Tel Aviv lors des tirs de Scud de 1991. Dès le début de la première intifada, Rabin a martelé qu'il n'existait pas de solution militaire à la révolte palestinienne, tout en menant une dure politique de répression. À chaque fois qu'il est aux commandes, le nombre de Palestiniens tués augmente. Son véritable courage politique réside dans sa volonté de sortir de l'immobilisme politique, doublé d'une pratique du fait accompli et de la colonisation, qui constitue l'essentiel de l'action israélienne depuis le début de l'occupation. Le renouveau de la violence palestinienne, avec un Hamas qui passe à la lutte armée, a fini par le convaincre que la seule solution réaliste et la séparation des populations. Il est persuadé que seul Arafat aura les moyens de mettre fin au Hamas. Selon Rabin, le leader palestinien n'aura pas à se soucier des limites légales qui s'imposent à l'action israélienne. Il est vrai que les négociateurs palestiniens l'ont souvent affirmé lors des discussions de Norvège. Cette idée, Rabin l'a exprimée publiquement le 7 septembre 1993, je cite. « Je préfère que les Palestiniens se chargent du problème du maintien de l'ordre dans la bande de Gaza. Les Palestiniens le feront mieux que nous parce qu'ils ne permettront pas d'appel à la Cour suprême et empêcheront l'Association israélienne des droits civiques d'en critiquer les conditions en interdisant l'accès à ce secteur. Ils gouverneront par leur propre méthode, libérant, et cela est le plus important, les soldats de l'armée israélienne d'avoir à faire ce qu'ils feront. » Et le lendemain, Arafat a semblé l'approuver en déclarant « J'ai contrôlé la totalité du Liban. Pensez-vous que je ne pourrais pas le faire en Palestine? Je puis vous assurer que nous contrôlerons Jaffa, Gaza et Jéricho sans aucun problème. » Il y aura en outre une coordination totale entre Israël et l'OLP sur les questions de sécurité. Fin de citation. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'OLP fait ce genre de référence à son gouvernement du Liban, ce qui exaspère d'ailleurs les Libanais. Mais personne ne semble se rappeler qu'à l'époque, il a surtout agi par tergiversation, engagement non tenu, cooptation et corruption plutôt que par coercition. Son expérience gouvernementale libanaise aurait dû apparaître comme la plus mauvaise préparation au rôle nouveau qu'il attend. L'accord d'Oslo est un maillon d'une chaîne de textes qui, depuis le début de la question de Palestine, se caractérise par l'ambiguïté. En dépit de la reconnaissance mutuelle, particulièrement du bout des lèvres du côté israélien, où l'on continue à parler des Palestiniens plutôt que du peuple palestinien, On renvoie à toutes les questions fondamentales, Jérusalem, la définition territoriale, le sort de la colonisation, les réfugiés, à la négociation finale à venir. C'est un accord intérimaire qui laisse tout ouvert, puisqu'il ne sanctionne aucun principe politique créateur de droit dans l'interprétation israélienne. Il permet ainsi une pluralité de lectures qui va de la seule autonomie de personne, telle que Begin l'a conçue à Camp David, à la constitution dans le futur d'un État palestinien. La compétence de l'autorité palestinienne ne concerne que les non-israéliens dans une zone géographique déterminée et dans des domaines précisément définis. L'accord ne mentionne ni l'occupation israélienne avec tous ses faits accomplis, condamnés régulièrement par différentes résolutions de l'ONU, y compris celle du Conseil de sécurité, ni le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, mais en même temps, on peut s'attendre à la mise en place d'une dynamique s'appuyant sur la rhétorique de la réconciliation des deux peuples et aboutissant bien à la constitution des deux États. Ce serait un accord dans les logiques des accords de décolonisation qui passaient par des phases d'autonomie temporaire avant l'accession à la pleine indépendance, comme par exemple pour la Tunisie ou pour le Maroc. C'est ce qui s'était passé dans les années 1950. Dans le contexte politique de 1993, l'ambiguïté est indispensable pour pouvoir aller au-delà, compte tenu des rapports de force et de la situation psychologique des deux sociétés. Il s'agirait alors de créer une réalité nouvelle dont on se serait ensuite forcé de tirer les conséquences. C'est ce qu'on appelle dans le langage des relations internationales l'ambiguïté constructive. Dans le cas précis, on pourrait parler de choc psychologique indispensable quand on prend en compte les effets du double refus, le refus palestinien de l'existence de l'État d'Israël, le refus israélien de l'existence du peuple palestinien. Il n'en reste pas moins que la principale faiblesse de l'accord est qu'il laisse les Palestiniens complètement désarmés devant de nouveaux faits accomplis israéliens, comme la confiscation de terres ou la colonisation directe. La seule possibilité qu'il leur reste, c'est de rejeter la validité et la légitimité en les remettant en cause lors de la négociation finale. L'interprétation que donne Rabin plus franchement et Peres avec une rhétorique plus attrayante s'inscrit dans la continuité du plan Alon qui a toujours été le programme des socialistes. Une forme d'autonomie territorialisée mais enclavée des régions peuplées d'Arabes et l'annexion du reste par Israël. Les deux hommes martèlent en permanence qu'il n'est pas question d'aboutir à un État palestinien, mais d'assurer la sécurité d'Israël, que l'occupation directe des territoires ne permet plus. Rabin, comme avec la Syrie, s'interdit d'exprimer ses intentions définitives, même à ses plus proches. Peres, lui, développe en permanence des projets extrêmement ingénieux de solutions fonctionnelles, sans vouloir énoncer des principes générateurs de droits souverains pour les Palestiniens. Pour les deux hommes comme pour leur entourage, il leur paraît évident que la partie palestinienne a de fait accepté cette solution et que son attachement au retour aux lignes du 5 juin 67 n'est qu'un combat rhétorique d'arrière-garde. Il en est de même pour Jérusalem-Est. On accordera aux Palestiniens une forme de présence politique symbolique. L'amélioration de la situation économique des Palestiniens suffira à les persuader d'accepter la solution définitive qu'on leur proposera. De par son rôle dans l'histoire d'Israël, Rabin est en capacité d'imposer l'accord au complexe militaro-sécuritaire qui lui est hostile, c'est-à-dire ce qu'on appelle le complexe militaro-sécuritaire, c'est-à-dire l'armée et les services de sécurité, le Shin Bet, le Mossad, etc. Ehud Barak, qui est encore chef d'état-major à ce moment-là, aurait voulu présenter une voix dissidente au gouvernement israélien. L'accord, dit-il, est comme un fromage suisse rempli de trous qui sont autant de dangers pour la sécurité d'Israël. Rabin le lui a refusé. Il en avait le poids politique. Aucun militaire ne pouvait s'opposer à Rabin, le chef d'état-major qui avait permis la victoire de juin 67. Et plusieurs fois après, ministre de la Défense. Ori Sagi, le chef du renseignement militaire, aurait fait la critique la plus pertinente. Remettre à 5 ans la résolution des questions fondamentales alors que l'on établit une autorité palestinienne est une contradiction dans les faits. Non, je n'ai pas le titre. D'accord. Soit on lui cédera, soit on la mettra dans une position impossible par rapport à son peuple. En revenant au plan Alon, sans le dire, Rabin et Peres mettent fin au consensus dans l'immobilisme qui était l'essence du discours israélien, puisqu'ils rejettent au nom de la sécurité l'option du grand Israël compatible avec la lecture dans la droite israélienne de Camp David. De toute façon, le Likoud n'a jamais sérieusement cherché à appliquer cette autonomie de personne qui était avant tout un argument de réponse aux pressions internationales sur la question palestinienne. L'abandon du grand Israël constitue une rupture franche par rapport au radicalisme sioniste de la droite. Le discours de réconciliation entre les deux peuples en est un autre. En traitant avec Arafat, Rabin, qui ne cache pas son déplaisir, rejette toute la démonisation des Palestiniens, assimilés en général à tous les ennemis des Juifs dans l'histoire, et en particulier aux nazis, ce qui avait conduit au massacre de Sabra et Shatila. Menée par Netanyahou, la droite israélienne fait campagne contre l'accord d'Oslo, qui va permettre la constitution d'un État terroriste palestinien sur tous les territoires, y compris Jérusalem. Implicitement ou explicitement, les Palestiniens sont toujours définis par la droite comme des terroristes et des nazis. L'accord d'Oslo conduira à un nouvel holocauste. On cherche ainsi à retourner l'argument de la gauche israélienne. Les concessions territoriales et symboliques que constitue l'abandon du grand Israël n'assureront pas la sécurité de l'État hébreu et de sa population. Bien au contraire, ils seront encore plus en péril. L'opposition entre droite et gauche israélienne correspond à un clivage culturel. La gauche israélienne paraît plus moderne, plus engagée dans la mondialisation de l'économie et dans le nouvel ordre plus mondial, plus pacifique, qui semble devoir émerger après la fin de la guerre froide. Le nationalisme de la droite semble alors plus archaïque. Le paradoxe est que la gauche correspond aux vagues d'immigration plus anciennes, celles des fondateurs de l'État d'Israël, ceux qui se définissent plus clairement comme étant des Israéliens, tandis que ça correspond aussi aux Ashkénazes venus d'Europe orientale, donc des gens qui se apparaissent comme européens, laïcs et bourgeois, alors que la droite recrute, non exclusivement bien entendu, chez les séfarades, donc dans un milieu plus populaire, et avec une orientation nettement plus religieuse. Et durant toute sa carrière politique jusqu'à aujourd'hui, Netanyahou jouera sur ces clivages, disant que, quelque part, la gauche est israélienne, tandis que la droite est juive, et oppose juif à israélien. israéliens ayant de moindres identités religieuses par rapport à juifs. Et en utilisant cet argument, Netanyahou se rapproche des partis religieux. Mais la situation du début des années 1990 ne permet pas des distinctions aussi tranchées. Le gouvernement Rabin dispose au moins au départ du soutien du parti séfarade Ch'ass, d'inspiration religieuse, que l'on aurait attendu à ce moment-là voir soutenir la droite. Pour la direction du Ch'ass et ses mentors religieux, la sanctification de la vie peut être préférable à celle de la terre. Plus concrètement, on accorde la priorité au règlement de la question religieuse. On accorde la priorité au règlement de la question palestinienne à l'affrontement inévitable entre laïcs et religieux. De même, les immigrants russes récents, bien qu'hostiles au socialisme et très nationalistes d'esprit, ont dans leur majorité voté pour Rabin. Les travaillistes paraissant les seuls capables d'assurer la prospérité économique indispensable pour leur intégration à la société israélienne. Cette coalition d'intérêts divergents permet au gouvernement de conserver sa majorité, mais au prix de tensions engendrées, en particulier par les conflits laïcs religieux séfarades-ashkénazes et à la limite israéliens-juifs, bien que ce soit évidemment moins dit à cette période, ce sera un peu plus tard que ce clivage se dessinera plus clairement. Symétriquement, du côté palestinien, la contestation porte à la fois sur le sens et la portée de l'accord. La gauche palestinienne, déjà très marginalisée, rejette l'accord et trouve de nouveau accueil en Syrie, où elle rejoint les mouvements dits pro-syriens déjà installés. De Damas, ils font campagne contre Arafat et Oslo, en particulier en utilisant la radio palestinienne émettant du territoire syrien, ce qui provoque le mécontentement des États-Unis et d'Israël. Rabin en profite pour se désengager de ses ouvertures de paix avec le régime de Damas. Quelques intellectuels palestiniens, comme Edouard Saïd, considèrent qu'Arafat a trop cédé à Israël et que la dynamique en cours ne produira rien de bon. Si c'est pour obtenir ces résultats, il aurait mieux valu le faire plus tôt. Et ces intellectuels se retrouvent sur un certain nombre de points avec la critique du Hamas. La résistance islamique, bien entendu, rejette tout accord avec le sionisme dans la continuité du projet de libération de toute la Palestine, mais elle dénonce aussi l'accord d'Oslo comme un piège, un complot, une trahison qui, loin de libérer une partie de la Palestine, en perpétuera au contraire l'occupation. C'est une bombe à retardement qui risque de provoquer un affrontement, une discorde, fitna, entre Palestiniens. L'accord conduira à une nouvelle expulsion des Palestiniens, disent les gens du Hamas. Le Hamas fait ainsi un procès de légitimité à l'OLP, qui n'a pas la capacité de représenter le peuple palestinien et de procéder à de tels abandons. La lutte de libération islamique continuera. Il faut intensifier le combat. Mais dans les territoires, en dépit des islamistes, l'accord est reçu avec enthousiasme. On y voit la promesse d'une fin rapide de l'occupation et la constitution d'un État palestinien. Si les violences se continuent de part et d'autre, les forces d'occupation sont bien contraintes, y compris à Jérusalem, après la poignée de main entre Rabin et Arafat, de tolérer les drapeaux palestiniens et les autres symboles nationaux. Alors qu'avant, c'était interdit d'arborer les symboles nationaux palestiniens. Le Hamas se trouve dans l'incapacité d'organiser une grande manifestation de masse, même à Gaza. Néanmoins, l'opposition entre intérieur et extérieur reste une réalité sous-jacente. Tout en se reconnaissant dans l'OLP, les personnalités palestiniennes se voient comme les porte-parole d'une société civile palestinienne qui refuse l'imposition du modèle politique autoritaire propre au régime politique arabe de l'époque. De même, le Hamas se veut le représentant d'une société civile islamique enracinée dans le terreau social des territoires occupés. L'OLP, dans son modèle Beyrouth-Tunis, apparaît ainsi comme un repoussoir. Dans les principaux pays arabes, on ne retrouve pas l'attitude de rejet résolu qui avait accompagné la conclusion des accords de Camp David. Le comportement le plus général est celui d'un attentisme prudent, sans condamnation brutale. Damas a même autorisé une présence officielle syrienne et libanaise à la cérémonie du 13 septembre à la Maison-Blanche. Il en est de même pour le prince Bandar qui est représenté, l'Arabie saoudite. Les pays du Golfe maintiennent l'ostracisme de fait de l'OLP depuis l'attitude d'Arafat durant la Seconde Guerre du Golfe. Dans la diaspora palestinienne, l'OLP était en perte de vitesse du fait de sa crise financière qui ne lui permettait plus d'assurer les services sociaux. Dans les camps palestiniens du Liban et de Syrie, on permet à l'opposition à l'accord d'Oslo de s'exprimer. C'est que les réfugiés sont les grands absents de l'accord. À juste titre, ils ont des raisons de s'inquiéter. En basculant vers l'intérieur de la Palestine, l'OLP risque tout simplement de les abandonner. Parallèlement, l'accord est plutôt mal reçu par les responsables libanais qui s'inquiètent du risque de voir pérenniser l'implantation palestinienne au Liban. Le Hezbollah traite Arafat d'espion juif. Le gouvernement de Hariri interdit les manifestations publiques de protestation. Le Hezbollah passe outre. L'armée tire et fait 8 morts et 40 blessés le 13 septembre parmi les manifestants. Le lendemain, le Parti de Dieu rassemble près de 100 000 personnes pour les obsèques de ses partisans. Manifestation de masse contre le pouvoir, contre Hariri et contre l'accord d'Oslo. Pour arriver à un accord, il fallait certainement provisoirement mettre de côté ce qui était inconciliable. Le pari des négociateurs est de créer un état d'esprit de confiance mutuelle entre les deux peuples, permettant ensuite de surmonter les difficultés à venir, d'où l'importance accordée aux mesures économiques. On évoque tout de suite la mobilisation d'importants financements européens et internationaux destiné à améliorer sensiblement la situation économique des territoires occupés. Les Palestiniens auraient ainsi un gain immédiat et tangible. Mais les territoires occupés et Israël constituent toujours un espace économique uni, ce qui fait dire aux critiques de l'accord que même s'il y avait un plan Marshall, il ne mettra pas fin à la dépendance des territoires palestiniens en faveur de l'économie israélienne, ne serait-ce que par l'asymétrie inévitable des deux économies. Si les principales déclarations des décideurs internationaux reconnaissent que la voie est difficile, elles sont pour l'essentiel très optimistes. Sans le dire du fait de la nature intérimaire de l'accord, le consensus général est que l'on va, à l'instar des précédents européens, vers une décolonisation conduisant effectivement à un État palestinien. On ne prend pas vraiment en compte la contradiction interne de l'accord. En renvoyant les dossiers essentiels à la négociation finale, ont conduit les acteurs à vouloir multiplier les faits accomplis sur le terrain, ce qui ne peut que conduire à une logique d'affrontement contraire à la volonté d'établir un climat de confiance. Même si les États-Unis et la communauté internationale vont être mobilisés au service de l'accord, Israël a obtenu qu'il n'y ait pas d'arbitre ou de médiateur extérieur. L'OLP a déjà cédé sur l'essentiel en abandonnant sa revendication sur l'ensemble de la Palestine mandataire et en se limitant au territoire occupé en 1967, mettant ainsi entre parenthèses le droit international défini par le principe d'autodétermination, les conventions de Genève et les résolutions de l'ONU sur les territoires occupés. Il en résulte que la rhétorique est celle de négociations bilatérales et la réalité celle d'une formidable disproportion des forces. Les Palestiniens n'ayant rien, puisqu'ils sont occupés, c'est aux Israéliens de fixer à chaque fois la nature et l'étendue de ce qu'ils appellent des concessions. En dépit des échéances marquées dans les accords, c'est eux qui fixent le calendrier réel. Mais en cas de refus palestinien définitif sur ce qui est considéré comme vital, ils sont dans l'incapacité de transformer la force en droit. Et c'est ça la thématique jusqu'à aujourd'hui, 2012. Les Israéliens disposent de la force, mais ne sont pas capables de transformer la force en droit. Les Palestiniens disposent du droit, mais n'ont pas la force pour instaurer le droit. Et c'est pour ça que toute négociation israélo-palestinienne est un échange de la force contre le droit. Et c'est un critère qui dure jusqu'à aujourd'hui et qui, je crains, durera encore plus longtemps. Et nous abordons donc maintenant un nouveau chapitre qui s'appelle Gaza-Jéricho, c'est-à-dire l'application de l'accord de principe, de la déclaration de principe. Et je commencerai ce chapitre par une longue citation d'Itzhak Rabin à la Knesset le 18 avril 1900. 94. Je commence. Je veux dire la vérité. Depuis 27 ans, nous avons dominé un autre peuple qui ne veut pas de notre autorité. Depuis 27 ans, les Palestiniens, dont le nombre s'élève maintenant à 1,8 million, se lèvent chaque matin avec la rage au cœur contre nous, comme Israéliens et comme Juifs. Chaque matin, ils se réveillent pour une vie difficile et c'est en partie notre faute, pas entièrement. On ne peut pas le nier. La domination permanente d'un peuple étranger qui ne veut pas de nous a un prix. Il y a d'abord un prix douloureux, celui d'une confrontation permanente entre eux et nous. Pendant 6 ans et demi, nous avons vu un soulèvement populaire palestinien contre une domination, l'intifada. Ils ont essayé par la violence et la terreur à nous faire du mal, à nous infliger des pertes et à briser notre volonté. J'aimerais vous présenter quelques données fournies par l'armée israélienne. Depuis le commencement du soulèvement, 219 Israéliens ont été tués, assassinés. 68 faisaient partie des forces de sécurité et 151 étaient des civils. C'est un prix élevé. Nos blessés, 7872, dont 5062 des forces de sécurité et 2810 des civils. 1045 Palestiniens ont été tués par nos forces, l'armée israélienne et les organismes de sécurité. 69 ont été tués par des civils israéliens. 922 Palestiniens ont été tués par des gens de leur propre peuple, il s'agit des collaborateurs. 99 ont été tués dans des circonstances inconnues. 21 se sont fait exploser en maniant des explosifs. Un total donc de 2156. Les Palestiniens blessés, selon les chiffres de l'armée, sont 18 967. Quant à moi, je les estime pour le moins à 25 000. Entre 1290 et 14 000 ont été détenus et emprisonnés. Ce sont les chiffres du combat pour les 6,5 dernières années. Quelles sont les possibilités qui nous attendent après 27 ans de domination ? Je ne veux pas utiliser un autre mot. Une entité autre que nous, religieusement, politiquement, nationalement, un autre peuple ? La première possibilité est de perpétuer la situation comme elle est, de faire des propositions sans avoir de partenaire. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de possibilité de règlement sans avoir de partenaire. D'essayer et de rendre permanente la domination d'un autre peuple, de continuer sur la voie d'une violence sans fin et du terrorisme qui conduira à une impasse politique. Les gouvernements d'Israël, tous les gouvernements d'Israël, certainement depuis la guerre de Kippour, ont bien compris le danger contenu dans le gel de la situation. En conséquence, tous les gouvernements ont cherché la seconde option. La seconde option est d'essayer de trouver une solution politique. Aujourd'hui, la paix paraît plus proche que jamais. Il y a une chance, une grande chance de mettre fin aux guerres, à 100 ans de terreur et de sang, à 100 ans de haine. Quand nous nous sommes lancés dans la voie de la paix, nous savions qu'il serait impossible d'effacer 100 ans de haine d'une seule signature. Nous savions qu'il serait impossible de changer les idées et l'éducation acquises depuis la naissance. Nous savions que cette paix aurait des ennemis. Nous savions qu'il y aurait des gens et des organisations dont l'existence même est fondée sur l'hostilité entre les peuples, qui continueraient du meilleur de leurs moyens à enflammer leur passion. Fin de citation. Donc, comme on l'a vu, la possibilité de conclure l'accord d'Oslo a reposé largement sur les ambiguïtés du texte et sur ses virtualités contradictoires. L'application des principes implique de nouvelles sessions intensives de négociations et le passage progressif de l'indéterminé au déterminé, des attentes au réel. La négociation doit être maintenant publique et comprendre un plus grand nombre d'acteurs. Alors, on a évidemment, dès le lendemain de Liesse, après la cérémonie sur la pelouse de la Maison-Blanche. Et les Israéliens recueillent les premiers bénéfices de l'accord avec la signature d'un ordre de jour commun entre les délégations israéliennes et jordaniennes à Washington. Le texte était prêt depuis longtemps, mais l'absence de progrès dans le dossier palestinien n'interdisait la signature. Sur la voie du retour, Rabin et Peres sont reçus au Maroc par Hassan II. Outre un examen général de la situation, les deux responsables israéliens demandent au monarque marocain, avec qui ils ont eu des contacts réguliers, d'utiliser son influence pour persuader les pays du Golfe d'apporter une aide financière conséquente aux Palestiniens. Le roi s'engage dans ce sens. Mais en tant que président du comité Jérusalem de la conférence islamique, il rappelle que si la ville sainte doit rester unifiée, son statut actuel d'être sous totale souveraineté israélienne doit être modifié. L'isolement politique de la Syrie est souligné. De retour en Israël, Rabin marque que le règlement avec Damas peut attendre. Au Liban, il propose la conclusion d'un traité de paix comprenant des engagements de sécurité à condition que l'armée désarme préalablement le Hezbollah. Pour nous, dit-il, la résolution 425 n'existe pas. En ignorant la Syrie, c'est une offre vide de sens. Pour Rabin, la reprise des négociations avec la Damas doit attendre plusieurs mois et être conditionnée à l'évolution positive du dossier palestinien. Quant à Arafat, il est reçu par diverses institutions américaines, puis aux Nations Unies. Il passe du statut de terroriste à celui de chef d'État. Ensuite, il se lance dans une tournée d'explications dans plusieurs pays arabe. Là, vous voyez donc Arafat, avec Mahmoud Abbas, Hanan Eshraoui, reçu par le secrétaire général de l'ONU, qui est Boutros Rally. Le débat de ratification à la Knesset, prévu pour 3 jours, commence le 21 septembre 1993. Rabin pose le vote comme un vote de confiance. Il évoque la victoire du sionisme puisqu'Israël est reconnu par ses ennemis les plus décidés. Il parle de la limite de la force militaire, de la nécessité de briser le cycle des guerres, des grands risques pris. Netanyahou manque de crédibilité dans ses attaques contre Rabin, accusé de naïveté et d'inconscience. L'OLP veut détruire l'État juif. Arafat s'associera avec l'Irak et la Jordanie pour faire front commun et hisser son drapeau sur Jérusalem. Mais la Knesset ratifie l'accord par 61 voix contre 50 et 8 abstentions, les abstentions étant les votes du Chass, plus de 3 membres du Likoud. Mais en raison d'une affaire de corruption, le Chass s'est retiré du gouvernement, tout en apportant son soutien éventuel lors des votes décisifs, ne serait-ce qu'en pratiquant l'abstention. La coalition de gauche regroupe 58 voix sur 120 et dépend pour sa survie des votes de 5 députés arabes et communistes. Or, Rabin est sensible à l'accusation de voir que les votes juifs deviennent minoritaires et donc veut pour les grandes décisions avoir la majorité des députés juifs pour lui. Ce sera toute la difficulté du gouvernement Rabin. Le roi Hussein a été pris par surprise par l'accord d'Oslo et n'a pas caché sa colère à ses interlocuteurs palestiniens et israéliens. Outre le fait qu'il n'a pas été informé, il reproche aux Palestiniens d'avoir cédé sur tous les points que lui a refusés durant ses contacts avec les Israéliens. Il craint qu'Israël donne sa préférence à un partenariat avec les Palestiniens sur celui avec la Jordanie et s'inquiète des conséquences pour son royaume dont la majorité de la population est palestinienne. On organise un nouvel entretien secret qui se tient avec Rabin le 26 septembre 1994. Ou 93, excusez-moi. Le premier ministre israélien s'engage à protéger les intérêts jordaniens et à maintenir l'alliance des deux pays. Il voudrait obtenir tout de suite un traité de paix dont les stipulations précises seraient ensuite à définir, mais le roi exige d'abord une négociation sérieuse sur son contenu. Il ne veut pas d'une négociation sur le modèle d'Oslo où la résolution des questions définitives, enfin des questions les plus importantes, serait remise à une date ultérieure. Outre la défense des intérêts de son royaume, le roi connaît l'hostilité profonde de l'opinion publique jordanienne à un traité avec Israël. Il vient de faire modifier la loi électorale pour donner un plus grand poids aux tribus et aux différentes clientèles de la monarchie sur la représentation des populations urbaines. Les élections se tiendront au début novembre et les apolitiques les remporteront largement, donnant ainsi une plus grande marge de manœuvre au roi Hussein. C'est aussi un adage jordanien qui est que plus on négocie avec Israël, plus on diminue la part démocratique du fonctionnement du système politique jordanien. Dans les territoires occupés, le Fatah a donné la consigne d'arrêter les hostilités, mais le Hamas continue de les poursuivre. Le corps d'un Israélien tué par le Hamas est retrouvé près de Tel Aviv le 25 septembre. Le lendemain se produit une tentative d'attentat à la voiture suicide contre la colonie israélienne de Netzarim dans la bande de Gaza, revendiquée par la résistance islamique. L'armée israélienne ne tient pas compte des consignes d'Arafat et maintient sa chasse au cadre clandestin du Fatah. Le 29 septembre, une vaste opération militaire capture en Cisjordanie 5 cadres des Panthères noirs du Fatah, recherchés depuis plusieurs années. Le Fatah lance le lendemain en Cisjordanie une grève générale largement suivie. Pour les autorités israéliennes, l'arrêt des poursuites n'a pas été prévu par l'accord d'Oslo. La première action diplomatique est l'organisation par les États-Unis d'une conférence internationale sur l'aide financière à apporter à l'autonomie palestinienne. Elle se tient à Washington le 1er octobre 1993 et réunit les pays participants au multilatéral. La communauté économique européenne est le premier donateur, mais les États-Unis veulent s'imposer comme principal coordinateur d'une aide dont le montant s'élèverait à 2,5 milliards de dollars sur 5 ans. La charge repose surtout sur les Occidentaux, CE 600 millions, États-Unis 500 millions, Japon 200 millions. Les Européens ne se laissant pas faire, de guerre lasse, on renonce à créer un mécanisme commun de distribution. Chaque pays ou groupe continuera à distribuer son aide composée de dons et de prêts par ses propres canaux, tout en maintenant un comité de coordination, le Ad hoc Liaison Committee, ou AHLC. Voilà donc Ad hoc Liaison Committee, ou AHLC, présidé par la Norvège, dont le secrétariat est confié à la Banque mondiale. L'Arabie saoudite a proposé 100 millions de dollars tout en marquant sa réticence à les verser à l'ONP. Il faut d'ailleurs se rappeler que l'on est en période de bas prix du pétrole et que les pays du Golfe vont être contraints d'emprunter à leur tour pour maintenir leur train de vie. On découvre avec surprise que du fait de l'occupation, il n'existe aucune structure financière pour réceptionner cette aide. L'OLP annonce la création d'une autorité d'urgence pour la reconstruction et le développement de la Palestine, Palestine Emergency Development and Reconstruction Authority, ou PEDRA, qui deviendra par la suite le Conseil économique palestinien pour le développement et la reconstruction, Palestinian Economic Council for Development and Reconstruction, ou PEGDAR. Se pose immédiatement la question du contrôle des comptes et de la gestion de son utilisation, c'est-à-dire la place respective des donateurs et des utilisateurs de ces aides. Au-delà, on se heurte au problème de la faiblesse de la capacité d'absorption de l'économie palestinienne. Le montant de l'aide annuelle serait égal à 10% du produit intérieur brut des territoires, situation qui ne s'était jamais vue jusque-là. On ne dispose même pas de statistiques sérieuses de la population et de l'état de l'économie. Seuls les Israéliens ont des données, mais elles sont douteuses. En marge de la conférence, Shimon Peres rencontre à la Maison Blanche le prince Hassan, le frère du roi Hussein, et héritier du trône de Jordanie. Le président Clinton annonce la formation d'une commission économique jordano-israélienne et les États-Unis vont renforcer leur aide économique à la Jordanie. Les Américains seront les facilitateurs du dialogue israélo-jordanien. La sécurité est l'autre grand dossier à mettre en place dans le processus d'autonomie. En Israël, Rabin a confié aux militaires la charge de l'appliquer, le retirant aux négociateurs d'Oslo. Il trouve naturellement de nombreuses déficiences dans l'accord signé. Dans les médias, le 2 octobre, le gouvernement israélien lance une vaste opération de répression contre le Hamas dans la bande de Gaza, suivie d'une action de même nature le lendemain en Cisjordanie. Ce ratissage est doublé d'une rafle qui fait plusieurs victimes et aboutit à de nouvelles arrestations, ce qui provoque des protestations véhémentes de la part d'Arafat. Mais le 4 octobre, un attentat suicide à la voiture piégée blesse 30 Israéliens, dont certains gravement en Cisjordanie. Le Hamas revendique l'action comme étant une riposte à la politique d'Itzhak Rabin contre la résistance islamique. Durant le mois d'octobre, on retrouve des incidents du même genre, mais Rabin exonère ses partenaires palestiniens de la responsabilité de ce type d'acte et prévient à la population israélienne, je cite, « Nous savons bien qu'il y aura des moments difficiles à vivre, mais nous restons fermement décidés à poursuivre notre objectif qui est de parvenir à la paix. » Et d'ailleurs, comme je suis bon avec vous, c'est là où on va faire la pause de 5 minutes réglementaires.